بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم comme on a mentionné hier si on a emmené l'ordinateur c'est pour des soucis de facilité donc voilà. Inch'Allah aujourd'hui comme on avait commencé depuis le début du mois de Ramadan on va essayer de poursuivre sur notre lancée avec ce cours d'explication bref du commentaire donc du Coran et Pâques parce que comme nous l'avons dit on ne doit pas se limiter à la seule lecture du Coran, à la seule lecture sans compréhension, sans traduction et bien évidemment sans pratique. Certaines personnes, ils donnent cet exemple et ils nous disent que si demain on avait à recevoir une lettre en langue, quelle qu'elle soit, allemande, espagnole, anglaise ou même arabe, qui nous est destinée, c'est-à-dire avec notre nom et notre adresse, et si on ne connaît pas cette langue, alors quelle serait notre première réaction? Ce serait d'aller se diriger vers quelqu'un qui a la connaissance de cette langue et lui demander la traduction et l'explication. Donc comment pourrait-on imaginer que le Coran Sharif qui nous est destiné? Il ne faut pas qu'on pense, c'est pour toute l'humanité, mais les savants nous disent que lorsqu'on lit le Coran Sharif, alors il faut garder à l'esprit que ça vient d'Allah et c'est pour moi. Parfois on a peur dans les bayans, il y a des gens qui disent « Ah, peut-être, ça, Moïsa a dit ça parce que c'est moi qui l'a fait ça. » Nous, on dit que oui, c'est pour vous-même, alhamdulillah. Si vous voulez, si on veut, si moi je veux, quand je m'assois dans un programme, alors j'essaye de me corriger. J'essaye de dire « Allah, je suis faible, j'ai des péchés, alors fais-moi comprendre ce qui est mieux pour moi. » Donc le Coran Sharif, il m'est destiné. Mais si, alhamdulillah, notre tajwid, il est excellent, et que notre ton également, il est magnifique, et tout le monde nous dit « Wah, wah, mashallah, takbir, Allah, akbar, ahsanta, etc. 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 » Alhamdulillah, c'est un premier pas. Mais au-delà de cela, Hazrat Mullah Ali Qari, rahmatullahi alayh, un commentateur de hadith sharif du livre très célèbre qui s'appelle « Mishkatul Masabih » qui a d'ailleurs été traduit partiellement en français. Deux volumes sont déjà imprimés. Qui s'appelle « Les rivages de la lumière ». Alors à un moment, il explique et il dit que celui qui lit le Coran, mais qui ne pratique pas sur ce Coran, alors c'est comme s'il ne l'a pas lu. Et celui qui ne lit pas, c'est-à-dire en regardant donc les phrases et ayats du Coran, mais qui pratique sur ce Coran, alors lui, il a véritablement lu le Coran. Donc ça, c'est parmi nos devoirs, et c'est pour ça qu'il est important donc d'assister, de participer, de préparer également cela. Qu'Allah tabarak wa ta'ala m'accorde et nous accorde la possibilité d'avoir la véritable compréhension du Coran et pas la véritable valeur, même si bien évidemment on ne pourra jamais comprendre cela comme il se doit. Donc juste pour brièvement rappeler, la méthode qu'on va adopter, comme on avait dit, c'est qu'on essaye de faire un résumé de chaque sipara, on en est au troisième, alhamdulillah. Et dans ce résumé-là, on a fait trois parties. La première, c'est une partie plus fiqh, c'est-à-dire les règlements juridiques, les masa'il, les aqaïd, les croyances, parce que c'est important. Deuxièmement, les péchés, c'est-à-dire dans les versets qui ont été récités et dans les versets qu'on étudie, quels péchés Allah tabarak wa ta'ala a mentionné et pourquoi on mentionne ces péchés pour qu'on essaye justement de les éviter et qu'on demande pardon à Allah tabarak wa ta'ala ou alors à une plus grande mesure, si on connaît quelqu'un qui est pris dans ce péché, alors d'essayer de faire que cette personne s'abstienne de cela. Et troisième partie qu'on a appelée tazkiyah ou qualité à avoir, c'est-à-dire certaines sifat qu'Allah tabarak wa ta'ala mentionne dans le Coran Sharif et que si nous allons pratiquer sur ces qualités-là, alors inshallah avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala, notre vie inshallah se facilitera. Amin ya rabbal alamin. Donc pour débuter ce troisième sipara et la première partie donc du fiqh et des aqaïd, la première des croyances qu'on va donc mentionner pour aujourd'hui, c'est celle qui est essentielle à chaque musulman, c'est-à-dire celle du tawhid. Celle de l'unicité d'Allah tabarak wa ta'ala. Allah tabarak wa ta'ala n'a pas d'associé, Allah ta'ala n'a pas de partenaire, Allah ta'ala n'a pas d'enfant, Allah n'a pas de faiblesse, Allah n'a aucun défaut, Allah n'a aucun manquement. Et dans les versets du Coran et Pâques, plus particulièrement, il y a un ayat qu'on connaît en général, qu'on appelle le ayatul kursi, le verset du trône. Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il est dit qu'avant de sortir de la masjid, alors il y avait un compagnon avec lui, et il a dit à son compagnon, « Je vais t'enseigner avant que je quitte la masjid, je vais t'enseigner le plus noble verset du Coran. » le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il se dirigeait, il s'en allait, et il allait sortir. Et là, les savants, nos professeurs nous disent, peut-être également pour voir, et ça c'est quelque chose d'important, pour voir combien de talab, combien de désir d'apprendre ce sahaba il avait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit. Il a laissé faire. Et il allait sortir, et le sahaba, puisqu'il avait cette envie, il a dit, « Ya Rasulallah, tu m'avais dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tu allais m'enseigner le verset le plus noble du Coran. » Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a répondu que c'est justement le Ayatul Kursi. Alors, il y a beaucoup de vertus concernant le Ayatul Kursi. Dans un hadith sharif, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit en ce sens que celui qui va réciter le Ayatul Kursi après chaque salat, alors il n'y a que la mort qui sépare cette personne du paradis. De la même manière, dans d'autres ahadith et mubarakah, il est dit que le Ayatul Kursi, c'est un verset qui descend directement du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette donc de réciter et de comprendre cela. D'ailleurs, dans le dernier numéro de Al-Islam, la revue donc trimestrielle du Centre islamique de la Réunion, un article a été écrit là-dessus, et l'explication assez détaillée a donc été proposée. Ce qu'on va faire, nous, c'est juste mentionner en quelques points ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il mentionne à travers cela. Et Allah ta'ala, il parle principalement de ses sifat, c'est-à-dire de ses qualités, de ses attributs. Il parle de sa qudra, de sa puissance, il parle de sa science, que rien n'échappe à Allah tabaraka wa ta'ala. Dans un verset du Coran et Pâques, dans le 13e sifara, Allah il dit « Sawa'un man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfim bil-layli wa saribum bil-nahar » Pour Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui va chuchoter et celui qui va parler à haute voix, celui de jour ou de nuit, le passant, alors pour Allah tabaraka wa ta'ala, c'est égal. La nuit et le jour ne fait aucune différence. Et d'ailleurs, dans un des versets de ce troisième sifara, suratul Ali Imran, Allah ta'ala, justement, quand il parle de sa science, il nous explique sa science et sa puissance, il nous dit, regardez, huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Allah est cet être qui vous a façonné dans le ventre de votre mère. Et dans un autre verset du Coran et Pâques, Allah Ta'ala dit « يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ » À travers trois ténèbres dans le ventre de la maman, et les médecins également, ils ont expliqué à quoi correspondent ces trois ténèbres dans leur terminologie, c'est-à-dire de la médecine. Allah Ta'ala dit « Dans ces trois ténèbres-là, il a façonné l'enfant, l'être humain. » Alors qu'un peintre ou un artiste aurait besoin forcément de luminosité, de lumière pour faire donc son art, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de tout cela. Donc Allah il nous montre sa science, il nous montre sa puissance. Allah il nous dit également la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Il n'est pas atteint ni par la somnolence, ni par le sommeil, ni par la fatigue wal 'iyad billah. Dans certaines croyances, les gens disent que le dimanche c'est le jour où le wal 'iyad billah, ça c'est une croyance qui n'est pas bonne, ils disent c'est le jour où Dieu s'est reposé. C'est déjà un acte de kufr envers Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala n'a pas besoin de repos. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Aucune fatigue, aucune faiblesse pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah ta'ala il parle de ce tawhid là dans le ayatul kursi. Il parle de ce tawhid, de cette croyance en l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'avant-dernier verset de la suratul Baqara. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. Chacun, les prophètes, les musulmans, chaque croyant, il croit en Allah tabarak wa ta'ala. بالله وملائكته, aux anges, وكتبه, aux livres qu'Allah ta'ala il a révélé, on avait vu ça avant-hier, et ورسوله, sur les messagers et les prophètes également. Donc notre croyance, ça c'est quelque chose d'essentiel. Et deuxièmement, pour, on va dire, poursuivre sur cette lancée de la croyance des aqidah, vers le début du sibara, Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir mentionné le ayatul kursi, il mentionne trois récits. Le premier, celui de Ibrahim alayhi salatu wasalam, avec un roi qui s'appelait Namroud. Le deuxième, celui d'un prophète, mais Allah tabaraka wa ta'ala ne stipule pas clairement le nom de ce prophète. Il utilise un langage indirect et il nous dit « Aw kalladhi marra ala qaryatin » ou comme celui qui est passé par cette ville, par une ville. Et donc voilà, ça c'est le deuxième récit. Et troisième récit, toujours concernant Hazrat Ibrahim alayhi salatu wasalam. Et ces trois récits-là, Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il nous dit, c'est pour prouver quoi? Pour prouver encore une autre croyance, celle de la vie après la mort. Lorsqu'on lit le Imani Mufassal
Alors on dit Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala wa al-ba'thi ba'da al-maut. C'est-à-dire qu'on croit également en la vie après la mort. Ça, c'est une réalité. Et dans le récit de Hadith, le premier récit de Hadith Ibrahim alayhi salatu wa salam, alors ce roi, lorsqu'il a reçu Ibrahim alayhi salatu wa salam, il lui a dit Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allah al-mulk. Il qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim alayhi salatu wa salam lui a dit que Allah, mon Allah, tabarak wa ta'ala, il donne la vie et il donne la mort. Alors ce roi, il a dit ben moi aussi. Qala ana uhyi wa umit. Moi aussi, je donne la vie et je donne la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé quelqu'un et il a dit voilà, exécutez cette personne. Il a dit tu vois, je peux donner la mort. Ensuite, il a appelé une autre personne, il va, je te libère, toi tu es libre. Donc moi aussi, je donne la vie. Ensuite, Ibrahim alayhi salat wa salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a utilisé un tel argument qui a laissé silencieux, pantois, ce roi-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq. Allah fait lever le soleil de l'est. Fa'ti biha min al-maghrib. Si toi, tu prétends être Dieu, tu prétends être un Seigneur, comme tu as dit, que tu donnes la vie et tu donnes la mort, alors va à l'encontre de la décision d'Allah. Essaye de faire que le soleil se lève à l'ouest, au lieu qu'il se lève à l'est. Fabuhita alladhi kafar, et là il n'a plus rien à dire. De la même manière, dans le deuxième récit de ce prophète, alors il était passé face à une cité qui était totalement dévastée. Marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Et là il s'est demandé, anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha. Il avait cette croyance, mais il s'est demandé sous quelle forme. Allah Ta'ala peut le faire directement, indirectement, par le biais d'un ange, par le biais de différents moyens, comme nous l'avons vu dans la sourate Al-Baqara, même si on n'avait pas développé. Lorsqu'une personne était morte, Allah Ta'ala, il a dit d'égorger une vache afin de prendre un morceau de cette vache et de frapper sur cette personne pour qu'il revienne à la vie. Donc, Anna, comment est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va ressusciter ces personnes-là? Et là, Allah Tabaraka wa Ta'ala pour le faire comprendre à cette personne-là, qu'est-ce qu'il a dit? Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa amatahu Allah mi'ata 'amin thumma ba'atha. Allah Ta'ala lui a donné à lui-même, à ce prophète-là, la mort pendant 100 ans. Et ensuite, après 100 ans, il lui a redonné la vie. Et on a demandé à cette personne-là, « Kam labith, combien de temps tu t'es endormi pour toi ?»« Qala labithu yawman aw ba'd yawm. » Je suis resté peut-être un jour ou une partie d'un jour. Allah a dit non, tu es resté plus de 100 ans. Mais regarde ta nourriture, dans quel état elle est encore, donc en bon état. Regarde ton âne qui était avec toi. وَنْظُرْ إِلَىٰ حِمَالِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَنْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. Donc quand il a vu ça, alors sans doute il a eu ce qu'on appelle le ilm al-yaqin. Plutôt le haqq al-yaqin. Pas le ilm al-yaqin, mais le haqq al-yaqin. C'est-à-dire le mushahada, il a vu donc comment Allah tabarak wa ta'ala va redonner la vie après la mort. Et dans le troisième récit également, Ibrahim alayhi salat wa salam, il a voulu voir Rabbi, il parle à Ibrahim, Rabbi arini kayfa tuhki al-mawta, sous quelle forme tu vas redonner la vie à la mort, après la mort. Et Allah tabarak wa ta'ala lui a demandé de prendre 4 oiseaux. Quand on avait fait l'explication détaillée, alhamdulillah, on avait dit c'était quelle forme d'oiseau, pourquoi, etc., etc. Là, le but, c'est juste de passer et d'arriver au but principal, c'est-à-dire cette croyance de la vie après la mort. De prendre 4 oiseaux, d'égorger et de même, Mufti Shafi, sahib rahmatullah, il a utilisé, il a dit « qima », parce que « qima » banal. Et Tata Idriss nous avait dit en français, c'était « qima »
Oui,
la viande moulue. Donc on a fait ça, vous vous souvenez? Donc la viande moulue hachée. Donc il a pris ces 4 oiseaux, il a mis sous cette forme-là, et Allah Ta'ala l'a dit ensuite, mets ces 4 oiseaux sur différentes montagnes. Et ensuite, appelle ces oiseaux-là. Et tu vas voir, ils vont venir, et même les Mufassirs, alayhim rahma, ils disent que chaque, les différentes parties de ces oiseaux-là, alors par exemple, on a pris une patte de l'oiseau numéro 1, on a mélangé avec l'aile de l'oiseau numéro 3, ça s'était mélangé comme ça. Et ils se sont regroupés, ils sont venus en courant vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wasalam, il a vu ça, donc il a eu ce qu'on appelle le ilm al-mushahada, le haqq al-yaqin, et c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait donc comprendre cela. Donc ça c'était parmi, on va dire, les fiqh, les masa'il, les croyances, les aqidah, premièrement de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, deuxièmement de la vie après la mort. Il n'y a pas besoin d'aller extrêmement loin, même à travers ce qu'on voit tous les jours. Et le musulman, il doit regarder avec l'œil de la foi. Lorsque, par exemple, on voit que notre pied de lekchi, qui a été merveilleusement taillé, alors vous voyez que les feuilles sont revenues. Et vous voyez que parfois les feuilles sèchent. Et ensuite, Allah, il redonne la vie. ça redevient verdoyant. Fanzur ila athari rahmatillah kayfa yuhyi al-ard ba'da mawtiha. Allah dit, regardez à travers ces signes comment après la mort Allah y redonne la vie. Et ça, Allah Ta'ala n'a pas fait ça de manière vaine, c'est-à-dire c'est pas pour rien. Allah Ta'ala est fait pour qu'on comprenne, c'est vrai, regardez, il n'y avait plus de fruits, ensuite il y a eu les fleurs et ensuite les fruits sont apparus. De la même manière, nous, on a connu la vie, on va connaître la mort, et Allah Ta'ala, il va donc nous ressusciter. Deuxième chose importante parmi les masa'il, qu'on parle malheureusement un peu moins, et c'est ce qui a ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle les mu'amalat, les transactions. Et dans un verset de ce troisième sipara, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhal ladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Lorsque vous allez contracter un emprunt, quelqu'un va vous prêter de l'argent, alors écrivez cela. Le Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi dit qu'aujourd'hui, dans notre époque, plus de 1400 ans après l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de commun. Mais à l'époque, les Arabes, beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas écrire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il était illettré. Il n'arrivait pas à lire, il n'arrivait pas à l'écrire. Sauf pour quelques mots, certains ulama, ils disent, wallahu alam. Et Allah Ta'ala, il a donné cette directive depuis la révélation du Coran Sharif, d'écrire lorsque vous avez une dette. Pourquoi? Parce que si vous n'allez pas écrire, alors cela va ouvrir la porte au conflit. Demain, la personne va arriver et dire: non, moi je ne t'ai pas prêté de l'argent, ou bien je t'ai prêté seulement 1000, pas 2000, etc., etc. Donc Allah Ta'ala nous dit: écrivez cela. Et les commentateurs du Coran Sharif, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah, il dit: non seulement il faut écrire, stipuler clairement, mais il faut également fixer une date précise pour le remboursement, avec l'année, avec le mois et avec le jour. Pour pas que justement tout cela, c'est pourquoi? C'est pour éviter les conflits, éviter les problèmes, etc. Et pour avoir plus de sûreté, de garantie et de sécurité encore, Allah tabaraka wa ta'ala dit: non seulement il faut écrire, mais ayez également des témoins. Ayez également des témoins, soit deux hommes et une femme, ou bien un homme et deux femmes, et des témoins qui soient, c'est-à-dire musulmans, et qui soient des gens sur qui on peut faire confiance. Tout cela pourquoi? Pour que demain, inshallah également, il n'y ait pas donc des problèmes par rapport à ça. Donc ça c'est quelque chose, c'est également un domaine de l'islam. Il ne faut pas qu'on pense... Il ne faut pas qu'on pense qu'il y a d'une part sans doute la foi, etc. Il y a le culte, c'est-à-dire les ibadat, la zakat, etc., etc. Mais également les mu'amalat. Comment est-ce qu'on va avoir nos transactions avec les gens? Les mu'asharat, comment est-ce qu'on va se comporter avec nos voisins, avec nos parents, avec les gens, etc. Il y a le akhlaq, donc le bon caractère. Donc, tout cela, ça fait partie de l'iman, de la foi, de notre din. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et lorsque nous allons vivre, lorsque nous allons faire du commerce, lorsque nous allons faire des transactions comme Allah tabaraka wa ta'ala nous le demande, alors inshallah, cela va être beaucoup plus facile pour nous. On passe à notre deuxième partie, c'est-à-dire les péchés. Et un des grands péchés qu'Allah tabaraka wa ta'ala il mentionne dans la sourate Al-Baqara, c'est celui de l'usure et de l'intérêt. Alors, il y a plusieurs hadiths et mubarakas que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné, et on va les mentionner parce que comme Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, il le dit à un moment, on va lire ce qu'il dit, c'est que ça c'est un tel péché qu'aujourd'hui nous n'avons plus conscience de cela. Et Mufti Shafi Sahib rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce péché de l'intérêt, il est tel que quoi? آيات جو أنهي آيات قرآنك بيان هي جن مسود وباقي شديد ممانعات وسخ عذاب كي وعيد آيه تاکہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس تو بیدار ہو. C'est-à-dire au moins on comprenne et on ait à l'esprit que l'intérêt c'est un péché, c'est quelque chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fermement réprimandé et interdit dans le Coran Sharif. Premièrement il nous dit ça, اور اسے بچنے کی فکر ہو, et on essaye de trouver une alternative. Et alhamdoulilah, dans notre époque, de plus en plus, avec la mise en place de la finance islamique, il y a des ouvrages qui ont été écrits, il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, il y a même des produits qui ont été et qui sont proposés depuis peu, en métropole plus particulièrement. Donc on essaye de trouver des alternatives à ça. Pourquoi ? Il dit au moins, Mufti Shafi Sahib Rahmatullah nous dit qu'au moins on ne fasse pas devenir quelque chose d'illicite, d'interdit, on va faire devenir ça halal. Et dans son explication, et il a écrit plusieurs pages, et on avait d'ailleurs, alhamdoulilah, quand on était passé dans l'explication détaillée là-dessus, on avait présenté un document qui est très intéressant, qui a été écrit par Julien Pelissier. c'était quelqu'un de Paris et qui était assez conséquent. Et toutes les personnes qui veulent avoir ce document, Inch'Allah, venez, on va essayer de vous le prêter et vous le procurer. Vous pouvez avoir également ça donc par d'autres moyens. Et qui explique bien les effets, les méfaits micro-économiques, macro-économiques, dans toute sa splendeur, on va dire, comment et pourquoi l'intérêt. Au-delà du Coran et des hadiths, c'est quelque chose de mauvais. Donc Mufti Shafi Sahib Rahmatullah, il nous dit qu'au moins, si on va entendre ça, parce qu'Allah Ta'ala le dit dans ce Coran Sharif, dans ces ayats, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Oh les gens qui croient, alors arrêtez, délaissez l'intérêt, si vous êtes croyant. Et si vous n'allez pas faire, fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulih. Allah nous protège. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Alors, donc Mufti Shafi Sahib Rahmatullah, juste pour terminer, qu'est-ce qu'il dit? Au moins, on va avoir conscience, on va essayer de croire, on a la conviction, on va essayer de trouver une solution pour sortir de l'intérêt. Or, bari bari salih dindar musulman jurat ko tahajjud or zikrullah me guzare subah jab dukan ya kar khana me pahunche to unhe ye khayal bhi na aaye ke hum sood wa qimar ke muamalat mein mubtala hokar kuch guna kar rahe hain. Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali, il dit des gens très pieux qui la nuit se lèvent et ils se prosternent, ils adorent, ils prient Allah Tabarak wa Ta'ala. Ils passent leur nuit en adoration. Mais le matin, lorsqu'ils vont dans leur commerce, alors ils n'ont même pas à l'idée, à l'esprit, que l'intérêt c'est quelque chose d'interdit et que je suis en train de faire un péché. Donc d'un côté, alhamdoulilah, on fait des bonnes actions, mais de l'autre côté, un tel péché, et vous allez voir, les hadiths sharifs, ils sont terrifiants. Ce ayat du Coran sharif doit suffire quand Allah Tabarak wa Ta'ala nous annonce la guerre. Et dans certaines explications, il nous dit qui veut aller en guerre contre Allah Tabarak wa Ta'ala. Donc Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Ali dit au moins pour avoir un ihsas. Et ne croyez pas, et dans son explication, il dit qu'aujourd'hui, notre yaqin, notre conviction, elle est tellement empoisonnée qu'on a l'impression que l'économie ne peut plus survivre sans l'intérêt. Wal'iyaz billah, on a l'impression que l'économie ne peut plus survivre sans l'intérêt. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose de possible. D'ailleurs, dans son étude des travaux, l'économiste Keynes, Hubert Houdoy, il a écrit que l'obstacle à l'investissement et à l'emploi est l'ensemble des taux d'intérêt. Le seul remède radical aux crises de confiance qui affligent la vie économique moderne serait de restreindre le choix de l'individu à la seule alternative de consommer son revenu ou de s'en servir pour faire fabriquer l'article de capital qui, même avec une faible évidence, lui paraît être l'investissement le plus intéressant qui lui soit offert. Donc ça, c'est un économiste également qui a écrit ça, pour bien vous dire qu'il ne faut pas qu'on tombe et il faut qu'on demande Toba et qu'on arrête. C'est-à-dire que c'est très dangereux parce que dans notre foi même, Allah tabarak wa ta'ala, il nous l'a clairement dit que c'est quelque chose d'interdit. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Et vous allez voir les hadiths et mubarakah. Et donc, on arrive et qu'on demande pardon à Allah tabarak wa ta'ala et que son retourne donc vers les alternatives. Donc, concernant les hadiths et mubarakah, dans un hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Tabarani, rahimahullah, et l'imam Hakim, rahimahullah ta'ala, il dit que l'équivalent d'une seule pièce d'argent en intérêt sciemment, c'est-à-dire volontairement, la conscience, on connaît, consommé par une personne est pire aux yeux d'Allah que 36 fois de faire l'adultère. 36 fois de faire l'adultère, une seule pièce d'argent. Dans un autre hadith mubaraka, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens qu'il y a 4 personnes qui n'entreront pas au paradis et qui n'auront même pas la possibilité de goûter au plaisir donc, de ce paradis. Celui qui a l'habitude de boire de l'alcool, on était passé ça hier. Celui qui prend le riba, c'est-à-dire l'intérêt. Celui qui vole, qui usurpe les biens d'un orphelin sans en avoir le droit. Et celui qui est ingrat envers ses parents. Donc ça, ce sont des hadiths mubaraka. Et dans un autre riwayat, il est dit en ce sens que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Jabir, radiallahu anhu, il rapporte dans Muslim Sharif, que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui reçoit de l'intérêt, celui qui paie de l'intérêt, ceux qui sont témoins du contrat à intérêt, et ceux qui mettent ce contrat à écrit, par écrit. Puis il a ajouté, ils sont tous pareils, rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Donc vous voyez que ce sont des choses quand même assez graves, et qu'Allah, tabarak wa ta'ala, il fasse qu'on essaye, incha'Allah, au maximum de nos possibilités de sortir de cela. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans notre conviction en elle-même, qu'on n'est pas, s'il vous plaît, on va dire pour Allah tabarak wa ta'ala et pour notre foi nous-mêmes, non, on ne peut pas faire ça, subhanallah. On ne peut pas faire sans. Ça, c'est quelque chose qui est encore plus dangereux parce que ça touche directement à la foi. Et c'est une bonne transition, on va dire, pour le second péché, entre guillemets, qu'Allah tabarak wa ta'ala, il mentionne dans le Coran Sharif. Il y a un ayat dans lequel Allah ta'ala, il dit « Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir il muqantarati minan dhahabi wal fidmati » etc. Allah ta'ala, il nous explique que quoi ? Que l'amour de ce monde, l'amour des femmes, l'amour de l'argent, l'amour des biens, l'amour des trésors, des richesses, Allah lui-même, il a créé ça dans l'être humain. C'est quelque chose que vous ne pourrez pas éliminer. Et subhanallah, on avait dit précédemment, regardez lorsque nous avons la compréhension du dîn. Alors le dîn va devenir facile. C'est-à-dire, certes, on nous a demandé d'utiliser notre argent de la meilleure manière qui soit. Certes, on nous a demandé de contrôler nos désirs, mais Allah nous a donné une possibilité également de satisfaire à ces passions-là. Donc il ne faut pas croire que dîn, ça veut dire rester enfermé dans une chambre et ne plus faire rien, ne plus vivre, ne plus manger, ne plus boire, ne plus avoir de plaisir, ou l'arrière azoula. Ça également, c'est un piège du shaytan. Donc Allah, il nous dit que cet embellissement et cette attirance, cet amour que vous avez, ça, zuyina, Allah, il a embelli, il a mis dans vos... C'est quelque chose, Mufti Shafi Sahib, rahmatullah alayhi, dit de naturel. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est-à-dire de dépasser, d'excéder les limites. Alors là, on va à la destruction et on va à notre propre perte. Et justement, cet amour de ce monde-là, on doit être capable de diriger, d'orienter et de maîtriser cela. C'est-à-dire notre argent, alors Allah Ta'ala nous a donné quoi ? La sadaqa. Et d'ailleurs, ça c'est un des méfaits de l'usure, du riba, de l'intérêt. C'est quoi ? C'est qu'on devient avare puisqu'on utilise les autres. Il y a une certaine catégorie de gens qui s'enrichissent et d'autres personnes qui deviennent plus pauvres. C'est ce qu'on appelle en économie, si je ne me trompe, la paupérisation. Donc il y a ce phénomène-là qui se produit, et avec cela, cet amour de ce monde-là, donc on arrête la sadaqa, on y viendra, alors que c'est une action qui est extrêmement méritoire auprès d'Allah tabarak wa ta'ala. Et pour mettre un peu plus en avant ce péché de l'amour de ce bas-monde, on va mentionner quelques ahadiths et mubarakas dans lesquels Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait comprendre que notre but principal, ce n'est pas ça. Dans un hadith sharif rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Celui dont la préoccupation est la vie dernière, c'est-à-dire « man kan hammuhu al-akhira » l'au-delà. Dieu fera que sa richesse soit en son cœur. Il confortera sa situation et les biens matériels se présenteront avec lui avec docilité, facilement. » Quant à celui dont la seule préoccupation est la vie d'ici-bas, Dieu mettra la pauvreté entre ses yeux et suscitera en lui la confusion, et il ne recevra de bien matériel que ce qui lui a été destiné. Dans un autre hadith sharif, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous faire comprendre la valeur de ce bas monde, qu'est-ce qu'il nous dit ? Que si ce bas monde valait auprès d'Allah le poids d'une aile de moustique, il n'y aurait pas consenti aux mécréants une seule gorgée d'eau. C'est-à-dire si ce monde, tout ce monde, pas seulement le continent américain, africain, non, asiatique, mais tout ce monde-là, pas la ville de Saint-Joseph, pas notre petite maison, mais tout ce monde-là savait la valeur d'une aile de moustique. Auprès d'Allah, Allah n'aurait même pas donné une goutte d'eau, une gorgée d'eau aux non-musulmans. Ça veut dire que ça n'a même pas la valeur d'une aile de moustique. Et on y viendra après, Inch'Allah. Par rapport à cela, Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que le paradis, comment est-ce que c'est quelque chose d'important ? Et dans un autre riwayat, il est écrit que ce monde, ce dunya, par rapport au akhirat, par rapport à l'au-delà, c'est quoi ? C'est comme au geste, s'apparente au geste de l'un de vous qui trempe son doigt dans un fleuve, qu'il voit donc ce qu'il peut en retirer. C'est-à-dire, mettez votre doigt dans l'eau, allez dans la mer, dans la rivière, ou dans, je sais pas, dans un verre d'eau, mettez et retirez. Vous voyez ce qui est venu sur votre doigt là ? Ça c'est ce dunya comparé au akhirat. Alors à nous de nous poser la question, est-ce qu'il vaut la peine de se détruire, on va dire, pour ces choses qui sont éphémères ? Et un autre riwayat qui est extrêmement intéressant également, Thawban radiyallahu anhu, il rapporte de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit en ce sens, les peuples, et ça c'est une vérité, les peuples se rassembleront contre vous comme les gens se rassemblent autour de la nourriture. C'est-à-dire ils vont venir tous sur nous. Quelqu'un dit, serons-nous peu nombreux à cette époque ? Il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, non, vous serez très nombreux. Et si vous vous souvenez, à un moment on a dit que Hazrat Mufti Shafi Sahib rahmatullah alayhi a dit, aujourd'hui, en termes de quantité, il n'y a jamais eu autant de musulmans. Et les musulmans n'ont jamais eu autant de moyens financiers. Mais, la foi que les sahaba radiallahu anhum avaient, alors bien sûr nous n'avons pas. Donc regardez, ils ont demandé que quand ces peuples ils vont venir nous attaquer pour nous manger comme quelqu'un il vient sur un plat, est-ce que les musulmans seront peu nombreux ? Rasulullah s'en a dit non, vous serez très nombreux, mais vous serez comme les écumes du torrent, divisés et faibles. Et Allah Ta'ala enlèvera des cœurs de vos ennemis votre crainte. Ils n'auront pas peur de vous. Il mettra dans vos cœurs al-wahan, la faiblesse. Quelqu'un dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce qu'al-wahan? Et il dit, l'amour de ce monde et la répulsion de la mort. وَتَصْنَعُوا مَصَانِعَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. On bâtit de telles choses, et ça c'est également un des signes de Qiyama, qu'on a l'impression qu'on va rester éternellement, et on se concurrence également. وَيَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. Nous on a fait un bâtiment de 1000 mètres, là tu as fait 2000 mètres, etc., 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 parmi les signes de la fin du monde. Donc ça c'est quelque chose, c'est un péché, et parfois surtout on n'a pas conscience de cela, l'amour de ce monde, de ne pas être attaché à ce monde. Ça nous amène à notre troisième partie donc de cette intervention, qui est donc la thèse qui a les qualités à avoir. Et une des qualités, bien sûr, dans un verset, un long verset, plusieurs versets de ce troisième sipara de la sourate al-Baqara, Allah tabarak wa ta'ala, il parle des vertus de dépenser dans le chemin d'Allah. Il parle des vertus de la charité, de faire l'aumône. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ. Et Allah Ta'ala, il donne donc cet exemple-là. Il y a un article également qui a été écrit, peut-être, Inch'Allah, ça va être paru, ça va paraître avec l'aide d'Allah Ta'ala. Mais brièvement, bon, on a mis deux hadiths sharifs, peut-être on va faire un pour faire un peu bref, on verra Inch'Allah. Dans un hadith sharif, Abu Dharr radiallahu anhu rapporte, je me présentais devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était assis à l'ombre de la Kaaba. Lorsqu'il me vit, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'exclama, je jure par le Rabb de la Kaaba, c'est-à-dire wa Rabbil Kaaba, c'est-à-dire Allah tabarak wa ta'ala, ce sont les plus grands perdants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu, il a dit, ce sont les plus grands perdants. Et Abu Dharr radiallahu anhu, il a dit, ya Rasulallah, que mon père et ma mère vous soient sacrifiés. À qui faites-vous référence? Vous parlez de qui, ya Rasulallah? Rasulullah, il a répondu, les plus riches, ceux qui ont le plus d'argent, sauf ceux qui dépensent abondamment, très abondamment, devant eux, derrière eux, à droite, à gauche. Il y a très peu de gens qui sont comme ça. Donc nous, notre fikar, le monde, il a fait qu'aujourd'hui, on appelle ça une société de consommation, on n'est jamais satisfait, on a dit ça hier, si on a un magasin, on veut deux, etc., etc., etc. Mais auprès d'Allah, auprès de Rasulullah, plus on aura... Alors plus on aura de compte également. Plus Allah il va nous demander, on t'a donné ceci, on t'a donné cela, qu'est-ce que tu as fait pour Allah tabarak wa ta'ala? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les personnes qui justement ils ont beaucoup, alors sauf ceux qui vont dépenser mais abondamment, comme on a vu, comme on a fait devant, derrière, etc., etc., alors eux, Inch'Allah, ils auront un compte plus facile. Et dans d'autres riwayat, il est également dit que les gens qui sont les plus modestes financièrement, eux, dans certains riwayat, il dit que 500 ans avant les hommes les plus riches, ils vont entrer dans le paradis. Et pour montrer la vertu de la sadaqa, de la charité et de l'aumône, regardez ce hadith sharif d'Abu Huraira, radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, un homme, il était en train de se promener dans une plaine déserte, et tout d'un coup, il a entendu une voix d'un nuage. On a déjà entendu ça. Et ce nuage, qu'est-ce qu'il a dit? On lui a dit, va déverser de l'eau dans le jardin de telle personne. Alors le nuage est parti, dans son eau dans un paysage rocheux, et à partir de cette eau-là, il y a eu un ruisseau. Et l'homme, il a suivi le ruisseau, l'homme qui a entendu donc cette parole de ce nuage-là. Il vit alors un homme debout dans son jardin qui dirigeait l'eau vers les plantes. Il l'interpella alors, ô serviteur d'Allah, quel est ton nom? Et le nom que cette personne a dit, c'était le même nom qui a été proclamé dans ce nuage-là. La personne a dit, pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Il dit, parce que j'ai entendu une voix du nuage qui a déversé cette eau qui disait, va vers le jardin de telle personne en mentionnant ton nom. Quelle action fais-tu donc pour mériter ce que je viens de voir? Il répliqua, maintenant que tu as vu cette scène, je vais te le dire, lorsque je récolte les produits de ce jardin, je les divise en trois parts. Le premier, je la donne en charité, sadaqa. Le second tiers, je l'utilise pour moi-même et ma famille. Et le troisième, je le réinvestis dans ce jardin rapporté par Muslim Sharif, Mishkat Sharif, à la page 165. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et il ne faut pas croire, ça encore c'est façade, on appelle ça de notre yaqin, de notre conviction. Rasulullah sallallahu alayhi wa dit, quand vous allez donner, la sadaqa ne diminue pas votre bien. Au contraire, le riba, l'intérêt, diminue votre bien. Et on a l'impression avec l'intérêt qu'on gagne plus. Alors qu'on gagne moins. Et on a l'impression qu'avec la sadaqa, quand on tire, on a moins alors qu'on gagne plus. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa. Comment expliquer ça? C'est, on va dire, basé sur le principe de baraka, de bénédiction. Et baraka, ça ne veut pas dire kafa, ça ne veut pas dire avoir beaucoup. Mais dans peu de choses, Allah il peut vous donner beaucoup. Peut-être vous allez utiliser l'intérêt, vous allez avoir des centaines de milliers, voire des millions. mais les ulama, Hazrat Muammar rahimahullah ta'ala, un saint de l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Que la personne qui a eu recours à l'intérêt, tôt ou tard, malheureusement, ça c'est, il dit en ce sens comme ça, qu'au bout de 40 ans, il va être affligé, il va être atteint par une telle sentence, une difficulté, un problème, je ne sais pas, un incendie. Et après, on se demande, qu'est-ce qui se passe? On se demande pourquoi est-ce qu'on n'avance pas, on se demande pourquoi il y a tel problème, etc. etc. Allah tabaraka wa ta'ala, il me fait et nous fasse comprendre, inshallah. Donc voilà un peu pour les qualités, il y a encore beaucoup de choses par rapport à l'amour du paradis, mais on va s'arrêter là parce qu'on a été un petit peu long. Par rapport au fait de demander la constance sur cette foi-là à travers ce dua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma. C'est-à-dire que même le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il implorait Allah en dépit de ses nombreuses et multitudes bonnes actions. Toujours il était en train de demander, supplier Allah, Ya muqallib al-qulub, ô celui qui fait tourner et qui fait varier les cœurs, thabbit qalbi ala dinik, garde mon cœur fermement sur ton din. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous permette, incha'Allah, juste pour brièvement, parce que le but c'est pas seulement de parler, mais également de pratiquer. On a mentionné par rapport aux croyances, la première c'était le tawhid, l'unicité d'Allah tabarak wa ta'ala. Deuxième c'était, regardez les notes là, le tawhid. Deuxième c'était la vie après la mort, avec les trois récits. Les péchés, on a vu l'intérêt et l'amour de ce dunya, et les qualités, on a vu quoi? La sadaqa, donner l'aumône, la charité, d'avoir la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous fasse parmi ces gens choisis, protégés et aimés. Walhamdulillahi rabbil alamin, rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al alim.